Bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif sur Radio Escapade. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un arbre. Cet arbre, c'est le figuier. Un figuier qui est un arbre méditerranéen par excellence, un arbre qu'on trouve dans nos villages, dans nos garrigues, et qu'on va essayer de mieux connaître, parce que c'est un arbre assez complexe, assez mystérieux, mais aussi qui produit un fruit bien connu, qu'est la figue. Et on va aussi voir un peu cette question de la figue, comment on peut la cultiver, ou pourquoi elle n'est pas plus cultivée aussi. Et pour parler de ce sujet, on est aujourd'hui avec Roger Gavinelli. Bonjour Roger.
Bonjour Manuel.
Alors Roger, peut-être dans un premier temps... Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu quel a été ton parcours ?
Oui, comment je suis venu à la figue.
Voilà, exactement. Alors,
je suis venu après ma retraite, en 90, donc j'avais 60 ans. J'ai décidé de reprendre ce que j'avais pas pu faire au cours de ma vie, c'est-à-dire l'agriculture, vu que j'avais fait une école régionale d'agriculture, mais à Arras, dans le Nord. N'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans le Midi, parce que j'ai été... je suis arrivé dans le Midi en 88. Voilà. Alors, auparavant, quand même, j'ai donc fait cette école d'agriculture. Je suis allé au Tchad comme agent d'encadrement agricole, où on m'a fait faire tout un tas de bêtises coloniales. La culture du coton, qui était une culture de blanc, une culture d'exportation, qui n'avait rien à voir avec l'encadrement agricole que je devais réaliser vis-à-vis des populations locales, et ce qui était un peu pour ma vocation, parce que je n'avais pas encore commencé, mais enfin, c'était pour ça que j'étais venu. Faut dire que pendant la guerre, en fin de guerre, j'avais milité au sein de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, et on m'avait appris plein de choses vis-à-vis des ouvriers, tout ça, et j'avais eu au départ un peu l'idée d'être missionnaire. Puis cette idée m'a quitté, mais l'idée de mission à faire vis-à-vis de ces populations locales, africaines, est restée. Donc j'ai été dérouté complètement du travail qu'on me faisait faire, culture du coton, et j'ai rompu mon contrat. Et quand je suis revenu en France, j'ai refait les écoles, les arts et métiers pour avoir les diplômes nécessaires pour prendre la place du chef de service à l'école. Bon, et puis au cours de ces cours aux arts et métiers, le professeur m'a fait rencontrer un pédologue de l'Orstom, qui est devenu l'IRD depuis.
Pour la recherche et le développement.
Oui. Voilà. Et qui cherchait quelqu'un pour créer un laboratoire de microbiologie du sol en Tunisie. Alors moi, l'idée de repartir en Afrique me plaisait beaucoup. Donc j'ai suivi des cours de microbiologie à l'Institut Pasteur, et puis quelques cours en fac. Ce qui fait que j'ai eu quelques diplômes, et je suis rentré à l'Orstom avec un bon grade, quoi. J'étais ingénieur de recherche, quoi. D'accord. Et donc j'ai fini ma carrière comme microbiologiste du sol, qui n'a rien à voir avec la culture du figuier. Mais quand je suis parti en retraite, donc l'Orstom avait délocalisé ses locaux qui étaient abondis sur Montpellier. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le Midi. Et à Martha, je suis resté là parce que le Midi, c'est beau, quoi. Hein? Et là, j'ai trouvé un bout de terrain, 1,5 hectare, où j'ai replanté des arbres fruitiers. Et au cours de séances rééducation, c'est pas le mot, mais enfin quand on manque de connaissances, on prend des cours particuliers, on prend excusez-moi, je bafouille un peu, mais, et c'est là que j'ai rencontré des gens de l'association Froubliers qui m'ont dit, puisque tu veux plutôt t'occuper que de faire du pognon, fais-nous un verger de sauvegarde.
D'accord.
Et c'est là que j'ai planté alors du mûrier noir, du kaki, qu'est-ce que j'ai planté encore, ce qu'on mange à l'apéritif, là, des...
Des pistachiers.
Des pistaches, oui, des pistachiers et des figuiers. Alors sur un demi-hectare, j'avais donc 15 variétés de figuiers qui ont donné au bout de 3 ans. Les autres, il fallait attendre au moins 10 ans pour avoir des fruits. Donc je me suis impliqué beaucoup là-dedans. Et rapidement, alors j'ai eu une récolte que j'ai voulu transformer. Donc j'ai suivi les cours à Florac.
À Supagro, enfin où il y a...
Il y a un centre de formation.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Et puis je me suis mis à faire les marchés de proximité. Alors ça, c'était pour moi une découverte formidable, parce que le contact avec les gens, moi qui ai pas mal de bagou, enfin j'en avais pas mal maintenant, ça, à 85 ans, ça commence à baisser. Mais enfin, j'ai eu des contacts extraordinaires avec les gens qui me parlaient des recettes de leur grand-mère, de ce qu'ils faisaient, tout ça. Et alors je me suis mis aussi à faire de la cuisine...
D'accord.
Pour vendre sur les marchés.
D'accord.
Et bon, je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Donc l'idée a cheminé en moi, hein, de faire de la cuisine et de développer un atelier de transformation. Et là-dessus, je me suis pointé à Vézénobre, où il y avait eu une implantation. En 2000, non, à l'époque, non, il n'y avait pas encore de... C'était en 97, je crois, que je suis arrivé à Vézénobre. Ils faisaient les fêtes de la figue. Et à Saint-François, tous les ans, il y a 100 ans, 150 ans, ils vendaient à Vézénobre 500 quintaux de figues sèches.
D'accord.
Qui étaient séchées sur place. Et donc, je vais là-bas pour présenter mes figues et mes produits. Au cours d'un concours de dégustation, j'ai eu un premier prix pour ma confiture de figues. Alors, j'étais fier comme un bar tabac. Et puis, là-dessus, je me suis rendu compte qu'à Vézénobre, la plupart des vendeurs de figues, ils venaient de 50-60 kilomètres parce qu'il n'y avait plus de figuiers dans le coin. Alors, surpris, je me demandais pourquoi. C'est qu'il y a 100 ans, 150 ans, on élevait le verre à soie pour faire des soieries. Mais comme les feuilles de mûrier valaient plus cher que la figue, on a arraché les figuiers, on a planté des mûriers.
D'accord, donc on peut
donc,
dire...
Donc, il n'y avait plus de figuiers dans le coin.
Donc, en fait, c'est le mûrier pour le verre à soie qui a un peu pris la place des figuiers dans la région.
Exactement, oui, c'est ça.
D'accord. Sachant que le verre à soie était une culture très importante, oui. Un élevage d'ailleurs,
oui.
Un élevage très important tout le 19e siècle et début 20e, en Cévennes et Nord-Garrigues, quoi. D'accord. Alors, ce que je propose là, on va s'écouter une petite musique et ensuite on va revenir sur le figuier en tant qu'arbre. Parce que il a une biologie un petit peu particulière, donc je vais te demander un petit peu de me raconter ça. Mais on se fait une petite pause musicale en attendant.
Thank you.
Alors nous sommes sur Escapade en Garrigue, sur Radio Escapade, avec Roger Gallinelli qui va nous parler du figuier. Alors cet arbre, le figuier, il est un peu particulier au niveau de sa biologie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, qu'est-ce que c'est que la figue déjà? Est-ce que c'est un fruit? Est-ce que c'est une fleur? Comment fonctionne la reproduction du figuier?
Alors la figue... On peut pas dire que c'est le résultat d'une fructification ordinaire. La figue, c'est surtout une enveloppe, un vase fermé, avec juste une ostiole, une toute petite ostiole au cou. Et à l'intérieur, on va trouver une multitude de d'inflorescences, si vous voulez, c'est une multitude de
Des petites fleurs en fait à l'intérieur de la figue.
C'est la base de la base de la fleur. Là, excusez-moi, mais c'est une succession d'ovaires. Voilà.
D'ovaires.
Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une succession d'ovaires. D'ovaires donc avec l'ovule à l'intérieur. Au-dessus, il y a le style et en chapeau, il y a les stigmates.
Hein. D'accord.
Voilà. Alors, il faut pour féconder l'ovaire, il faut que le pollen y arrive. Or, il n'y a pas de pollen dans les figues normales. Elles sont fabriquées dans un arbre spécial qu'on appelle le figuier mâle, puisque le figuier femelle ne fait que des fleurs avec des figues qui produiront des figues. Le figuier mâle, lui, il est à part. Il y en a un tous les 50, 100 ou 200 mètres ou 200 arbres femelles. Il y en a peu dans la nature, mais enfin, ils sont répartis au hasard. Et les gens ne les remarquent pas parce qu'ils produisent les figues qu'en hiver. Or, en hiver, on voit un arbre avec des figues, on dit, et sans feuilles, on dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est l'arbre qui va récolter, qui va mettre à l'abri tout l'hiver une petite bête qui va aller ensemencer les figues fleurs. Les figues... Les
femelles.
Les figues femelles.
D'accord. Alors, donc, en gros, on a un arbre figuier femelle qui a, du coup, à l'intérieur d'une sorte de figue, tout un tas d'organes femelles de la fleur. Et à côté, on a donc, de temps en temps, un arbre mâle qui va faire des sortes de figues qui vont pousser en hiver. Et à l'intérieur, là, il y a de la production de pollen et en même temps, un insecte qui va être à l'intérieur de cette figue mâle, oui. C'est ça?
C'est ça. Alors, cet insecte, c'est un peu une abeille, en quelque sorte, et il fait 2 mm à peu près, donc c'est tout petit, parce qu'il faut qu'il puisse rentrer et sortir par l'ostiole qui se trouve à la pointe du figuier. Alors, la ponte du...
De ce petit insecte.
De ce petit insecte, le blastophage. La cécite particulière, c'est qu'elle a un oviducte, c'est-à-dire un tube qui conduit l'œuf, qui sera de la même longueur que le style de l'ovaire.
D'accord.
Du figuier mâle.
C'est-à-dire que ce petit blastophage est complètement adapté spécialement au figuier.
Au figuier mâle.
Et au figuier mâle, hein. D'accord.
Alors, à l'automne, fin d'été et au début d'automne, la femelle du blastophage va donc pénétrer, attirée par une odeur spéciale émise par le figuier, la fleur du figuier, va rentrer dans l'ostiole et va aller parcourir tous les ovaires qui sont accrochés sur les parois de l'enveloppe du figuier, de la fille. Et elle pourra pondre parce qu'elle va déposer son œuf à l'intérieur du style, qui sera de la même longueur que celle de son oviducte.
D'accord.
Hein? Et elle va déposer son œuf au niveau de l'ovule, dans l'ovaire. La larve qui va en sortir va manger l'ovule et va s'installer à sa place. Et elle va passer l'hiver tranquillement dans l'ovule. Et elle sera à l'abri du froid. Et elle va grossir, elle va manger tout rien normalement. Et au mois de mai, il y aura une première sortie de ces petites bêtes. Elles vont sortir, mais d'abord c'est le figuier, c'est le blastophage mâle qui va sortir et qui va aller féconder la femelle avant qu'elle soit sortie de l'ovule. De l'ovaire, pardon, elle va aller le féconder à travers la paroi.
D'accord.
C'est assez compliqué, assez difficile à imaginer qu'une petite bête aille féconder quelqu'un à l'aveugle, comme ça. Enfin, ça, c'est comme ça. Bon, donc le stigmate, le blastophage qui va sortir, va aller... attiré par une odeur, toujours l'odeur spéciale émise par le figuier, par la figue, va aller pénétrer dans les figues nouvelles que le figuier mâle aura pondues au mois de mai, vers le 15 mai. Et le blastophage va se développer en quelques semaines, et vers le 14 juillet, 15 juillet, quoi, il va à nouveau être prêt à sortir. Alors cette fois-ci, en sortant par l'ostiole de la figue mâle, il va y avoir le pollen qui va être mûr. Donc en sortant, le corps de l'animal étant mouillé, il va s'imprégner
de pollen,
et il va aller, toujours attiré par l'odeur spéciale émise par les figues, il va aller voir les figues du figuier femelle. Et là, il va rentrer donc par l'ostiole, il va vouloir pondre, mais là, il aura une difficulté, c'est que les figues du figuier femelle, les ovaires seront surmontés d'un stigmate, d'un style plutôt, beaucoup trop long, ce qui fait qu'il ne pourra pas aller féconder les ovules de cet ovaire. Mais alors, comme il ne peut pas, il va se balader partout. Il va en profiter pour déposer le pollen qu'il a partout sur son corps. Et c'est comme ça que toutes les fleurs, entre guillemets, de l'ovaire, du figuier femelle, vont être fécondées. Et c'est là qu'il y aura, à ce moment-là, dans chaque figue, il y aura plein de pépins. Maintenant, on a eu l'astuce, on a trouvé que il y avait des particularités sur le figuier femelle, c'est que parfois il pouvait faire des fruits sans être fécondé, parce que en fait, ce qu'on consomme dans la figue, c'est pas le fruit fécondé, c'est l'enveloppe là. Qui va s'épaissir, et c'est ça qu'on mange. Alors qu'il soit fécondé ou pas, peu importe finalement.
D'accord.
Bon, le gros avantage, enfin, pour certains, c'est que les personnes qui ont un râtelier qui a du mal à manger une figue, elles vont dire « Oh, mais ça, c'est bien, moi, ça ne me rentre pas, les graines ne me rentrent pas dans le râtelier. » Voilà.
Donc, si on résume, en fait, on a vraiment une adaptation entre le figuier et ce petit insecte qui est le blastophage. À la fois, le figuier, il offre, on va dire, le gîte à cette espèce d'insecte qui va pouvoir, du coup, se reproduire lui-même et grandir à l'intérieur d'une figue. Et en parallèle, cet insecte, lui, va féconder la figue. Donc, on est quand même dans un cas d'adaptation très complexe entre un insecte et un végétal, quoi, qui est le figuier. Et effectivement, on peut voir des exemples de figuiers qui n'ont pas de reproduction de ce type-là, des figuiers en Bretagne ou dans des régions où le blastophage, par exemple, n'existe pas. Mais on va quand même avoir l'enveloppe, mais il n'y aura pas les graines, il n'y aura pas tout ce système qui permet à la figue de se reproduire. Donc, du coup, le figuier, on le trouve où un peu dans le monde ?
Je crois qu'il y a 700 variétés de figues, de figuiers, de ficus. Mais le ficus qu'on mange, nous, il est quand même spécial là, au bassin méditerranéen. Mais tous ont besoin du blastophage.
D'accord. C'est vraiment une caractéristique.
C'est vraiment une caractéristique de l'arbre. Hein.
Donc, il faut bien se dire que quand on voit une figue... Alors, ce qu'on appelle une figue, ben, ça peut être plusieurs choses, quoi. Ça peut être soit l'enveloppe qui protège le petit insecte, soit l'enveloppe qui protège les fleurs, soit l'enveloppe qui protège ben, toutes les petites graines qui vont permettre la reproduction. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on est souvent un peu perdu quand on voit un figuier à se dire, ben, tiens, celui-là, est-ce qu'il va faire des bonnes figues ou pas ? Et du fait de cette reproduction assez complexe.
Ouais. C'est pour ça qu'on a des difficultés à parler de variété, parce que la variété, c'est vraiment un mélange de gènes qui proviennent de distances, parfois plus de 100 km, quoi, des fois. Hein. Le vent apporte, ou un insecte apporte le blastophage.
Alors, le figuier, il pousse plutôt dans des endroits où il a besoin d'eau ou il a besoin de...
Il lui faut de l'eau, quand même. Il peut pousser. Il a un système d'enracinement qui est très vigoureux et qui peut pousser. S'il a de l'eau au départ, il peut germer et pousser dans un endroit rocheux, même dans le cadre d'un mur ou d'une maison. D'abord, sa dispersion, au départ... On trouvait le figuier là où il y avait beaucoup de rochers. La figue, quand elle est mûre, elle éclate. Sa chair colorée attire les oiseaux ou les insectes. Ils viennent pomper la chair et ils vont aller se poser sur un endroit tranquille pour déguster tout ça. Et les graines qui tombent, bah, c'est là qu'elles germent. Donc le figuier peut occuper des endroits vraiment très, très spéciaux dans la nature et inimaginable, quoi.
C'est vrai que des fois, on en voit sur des parois de falaise même. Ouais, ouais. Mais par contre, effectivement, un réseau racinaire assez profond qui permet d'aller chercher l'eau qu'il y a en profondeur.
Et, pour preuve qu'il a besoin d'eau, c'est que quand vous plantez un figuier dans une petite propriété où vous avez un gazon, quand vous partez en vacances et que vous n'arrosez plus, le figuier fait la gueule. Hein, les feuilles, parce que les racines ont eu l'habitude... De se nourrir de l'eau
en surface
et pas en profondeur, comme ça devrait être son cas. Et donc, il a besoin d'eau.
On a souvent parlé de cette adaptation-là de pas mal de plantes en garrigue, justement, qui poussent sur un sol qui est plutôt sec, mais qui ont un système racinaire très, très profond. D'ailleurs, si vous allez des fois dans certaines grottes, on voit... Des racines qui tombent du plafond, de la voûte des grottes et qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres. Et c'est assez surprenant parce que parfois, ce n'est pas spécialement des gros arbres ou des gros arbustes qu'il y a en haut. Mais par contre, le système racinaire est très profond. Alors, on va se faire une autre petite pause musicale et ensuite, on parlera plutôt de la question de la culture. Oui.
Ah bah, ou la culture, oui, là, d'accord.
On y revient.
Ta tontine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites que la tantine se tire avec tes tétards, un tantinette es-tu, tu voudrais savoir, tu veux la tête, la terre, la toaster en tutu, la retourner lui faire tâter du tatami. La tétine comme un toutou, tout va sauter dans ta tête, t'es tout ratatiné et le temps te tasse. Alors tu tises et tu tâtes, t'étais d'autres tantines, mais la chair est triste et le temps fait tic-tac. Et personne ne toque, tu craques depuis qu'elle a pris,
c'est cliqué, c'est clac.
Et le temps fait
tic-tac,
personne ne rattrape, le doute rentre dans ta tête et tu tombes dans la trappe. Son titan, tu t'étanisais, son palpitant. Qu'elle était attirée par ton statut de matin orienté. Elle était tout à toi et se targuait d'être ton tatou. Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée. Alors va pas t'étonner si elle s'est étirée. C'est toi qui l'attends tout retourner comme une tartatin. T'es quel crétin, tu l'as bien mérité, tu t'es mal comporté. Dans la tête n'est que le total de ton comportement. Dans tes têtes tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été en malotru. Tu fais le tech, elle le toutou pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa tête la tartine testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la Bertrand cantaté. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton.
Alors on est toujours sur Escapade en Garrigue avec Roger Gavinelli, on parle du figuier. Alors on a vu la reproduction complexe du figuier avec ce petit insecte, le petit blastophage. Maintenant on va voir plus la question de la culture du figuier. À la fois comment on cultive son propre figuier et quelle est la production de figues actuellement dans nos régions. Alors peut-être dans un premier temps, comment on cultive un figuier? Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir, à connaître?
Non, c'est un arbre qui pousse facilement. On l'a vu, il pousse dans la garrigue. Mais apparemment, sans qu'il y ait eu de pioche, de trous, de quoi que ce soit, il suffit qu'il trouve de l'eau en quantité. Donc le long d'une falaise, il y a l'eau qui coule le long de la falaise, ça s'écoule en dessous. Et puis il faut quand même que le sol soit assez souple et mou pour que les racines s'enfoncent profondément. C'est le gros truc. Après, au-dessus, c'est un arbre qui n'a pratiquement pas de prédateurs, étant donné qu'il émet un latex assez...
Violent
ouais. Quand on casse une feuille ou quand on fait une plaie, donc tout le monde s'en écarte.
Hein. Ouais. Quand il y a peu d'insectes qui l'attaquent.
Ouais, ouais. Mais alors, donc, la culture, c'est un arbre qui vit 100, 150 ans, qui vit très vieux. Alors on peut le planter assez espacé, 6, 8 mètres, si on veut le garder longtemps, ou si on a d'autres espèces à côté, il peut être complanté avec d'autres espèces d'arbres moins exigeants et plus étroits. Mais alors, pour la cueillette, étant donné qu'il faut passer tous les deux jours, c'est un arbre qui produit, d'une part, les figues... Alors, parmi les figuiers femelles, il y a les arbres qui produisent les figues fleurs qu'on appelle la production
de
juin-juillet, hein, sont donc des figues qui apparaissent sur les rameaux de l'année dernière, de l'année passée, et qui vont éclore au mois de juin-juillet. Et il y aura sur les branches de l'année, il y aura la production de figues d'automne qui commencera vers le 14 août, 15 août, oui, jusqu'à début octobre. Alors, étant donné qu'il faut passer souvent, et puis que c'est un arbre qui peut prendre de l'importance, on a intérêt non pas à le tailler comme on fait pour le poirier ou pour la vigne, mais à contenir la hauteur de l'arbre de façon à ce qu'on reste au niveau du sol pour la cueillette ou sur des petits escabeaux, mais que ce ne soit pas compliqué, parce que si en plus le terrain est en pente, on risque de se casser la figure. Donc il faut une culture, il faut maintenir l'arbre à 3 mètres maximum de hauteur. Donc, on coupe plutôt les grosses branches, quand elles ont tendance à monter, plutôt que de tailler tous les ans les bouts de branches. Parce que si on taille les bouts de branches, on risque, d'une part, d'éliminer toutes les branches qui vont porter les figues d'automne, puisqu'elles apparaissent sur les branches de l'année, hein. Et on ne va conserver que les figues de juillet. Or, tous les arbres, tous les figuiers n'ont pas cette possibilité de faire des figues en juillet. Alors, il faut donc bien savoir ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Donc, bien connaître son arbre.
D'accord. Voilà. Et donc, du coup, la question après la transformation, c'est-à-dire qu'on peut soit manger de la figue fraîche, soit faire de la figue sèche, plutôt.
Oui, oui.
Donc, du coup, ici, on faisait quoi, plutôt ?
Oh, ici, qu'est-ce qu'on faisait ? Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de transformateurs, à Vézénob, ils faisaient de la figue sèche, parce que Vézénob, c'est un village qui est sur une colline très pentue. Ils cueillaient les figues, parce qu'un arbre produit quand même beaucoup. Donc, ils accrochaient les figues à un bout de fil, à un bout de raffia, par la queue, et faisaient des colliers qui pendaient à la fenêtre le matin. Face au sud, le soleil, il y allait à tout berzingue, et il remontait le collier le soir, et au bout de 4-5 jours, c'était sec. D'où l'idée que, enfin, d'où la production de 500 quintaux, ça fait 50 tonnes, de figues sèches, de figues fraîches, 50 tonnes, qui étaient produites dans le coin. Et l'avantage des figues sèches, c'est qu'on peut les garder ad vitam aeternam.
Alors que le problème de la figue fraîche, c'est justement comment la transporter, comment la conserver aller la vendre. C'est ce qui rend cette culture assez complexe.
Et ça vante surtout parce que une bonne figue, c'est une figue qui est déjà très molle, qui a même tendance à éclater, qui a par son ostiole, par le... au bout, là, qui a tendance à éclater et à laisser passer une goutte de miel, de miel-là. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « Une bonne fille a d'avoir un col de pendu, une robe de pauvre et la larme à l'œil. » C'est ce qu'on dit. La robe de pauvre, c'est-à-dire qu'elle est fripée et souvent déchirée. La larme à l'œil, c'est qu'il y a il y a une perle de miel-là qui suinte parce qu'il y en a trop. Et puis, le col de pendu, ça veut dire que tant que la figue n'est pas mûre, elle est perchée en haut de la partie qui l'attache à... comment on l'appelle Et puis, dès que c'est mûr, hop, elle pend. Elle penche. Donc, elle a le col de pendu.
D'accord. Voilà. Donc c'est ça qui fait qu'on reconnaît une bonne figue.
Et c'est la différence avec ce qu'on peut trouver au centre de la France ou au nord de la France. Quand on voit des figues fraîches qui viennent d'Espagne, d'Italie ou de Turquie, c'est, pour faire ces longs voyages, ces produits, ils ont parcouru quelques milliers de kilomètres. Et pour qu'ils subissent le transport, il leur faut... une maturité imparfaite. Donc une succulence négligeable.
Donc on peut dire que la production de figues fraîches ne peut être vendue que à proximité, quoi. Ouais, c'est vraiment un marché de proximité.
Ouais. Ou alors vraiment que les consommateurs soient des connaisseurs. Et à mon avis, si on refait la culture du figuier comme dans le temps, il faudra aussi rééduquer le consommateur à ses goûts.
Alors du coup, justement, vous avez un peu étudié la question de la production actuelle de la figue en France et en Europe. Quelques ordres de grandeur ?
Oui, alors, moi j'ai des vieux chiffres parce que c'est une étude que j'ai faite dès mon arrivée à Vézenov, c'est-à-dire vers 2007, vers 97, quoi. Enfin, une bonne quinzaine d'années, quoi. Alors, c'est des vieux chiffres qui datent de 2009, à peu près, 2010. Alors, ce qu'on achetait, attendez que je retrouve mes chiffres, entre 5... En figue fraîche, entre 5700 et 7400 tonnes de figues fraîches. Qu'on importait. En figues sèches, on importait entre 7300 et 8000 tonnes. Hein. Ce qui représente, en valeur de figues fraîches, entre 43 et 47 000 tonnes. Alors, ce qu'on consommait, c'était ça, moins ce qu'on produisait, qui était très faible. 2000 tonnes, 3500 tonnes, à peu près. Hein,
de ce qu'on produit
en France.
En France, d'accord.
C'est quand même par rapport...
Donc on n'est pas du tout un pays producteur.
On n'est plus un pays producteur. Alors qu'en consommation de figues fraîches, en valeur de figues fraîches, les figues sèches étant transformées en figues fraîches pour avoir une idée de la culture, ça veut dire qu'on consomme entre 53 et 58 000 tonnes de figues fraîches.
En France, d'accord.
France, hein.
L'équivalent, d'accord.
L'équivalent, hein. C'est quand même... énorme.
Et ça provient essentiellement d'où, du coup, ces figues ?
Alors, j'ai eu beaucoup de mal à avoir les chiffres des institutions nationales, la douane, etc. Les douanes locales, elles n'étaient pas capables. Et la chambre d'agriculture, c'était pareil. Chambre de commerce, rien. Il a fallu que je m'adresse au ministère de l'Agriculture, qui m'a orienté vers les douanes centrales à Montreuil. Et en trois jours, alors que j'avais mis trois mois et demi de recherche, en trois jours, j'ai eu toutes les importations sur 10 ans, alors les valeurs en tonnes et la valeur en euros.
D'accord.
Hein. Alors, ce qu'on produit, nous, en pourcentage... En France, c'est donc entre 6 et 14% selon les années de ce qu'on consomme.
D'accord.
Il y a donc de la marge. Et en valeur, alors, il y a une bonne vingtaine de pays importateurs, mais les trois principaux, c'est l'Italie et l'Espagne.
Ouais.
Et la Turquie. Et en contre-saison, venant du sud, c'est le Brésil.
D'accord.
Mais ceux-là, bon, ils vendent ce qu'ils veulent à n'importe quel prix, on s'en fout. Il n'y a pas de concurrence. Mais ce qui est très concurrentiel, c'est l'Italie et l'Espagne, qui, eux, nous vendent des fruits à 1 euro le kilo, 1,6 le kilo, euro, alors que nous... D'après ce qu'on m'a dit, un producteur français, pour qu'il s'en sorte, il faut que les figues soient vendues plus de 2,50 €. C'est sa valeur de sortie du champ.
D'accord. Donc, du coup,
alors, il y a des problèmes de...
difficultés.
Alors, j'ai pu lire par ailleurs que ces pays-là, ils emploient beaucoup de main-d'œuvre immigrée ou des femmes qui arrivent du Maroc ou de l'Europe centrale et ils les exploitent comme des esclaves, quoi. Alors ça c'est... Pour l'Europe, là, j'ai posé des questions à des députés, j'ai jamais eu de réponse. D'abord, j'ai jamais eu de réponse de qui que ce soit. C'est mon drame. J'ai pas su...
D'accord. Donc, et en France, c'est dans quelle région qu'on en produit
On en produit beaucoup. Et bien, c'est Solliès-Pont.
D'accord, dans le Var.
Dans le Var. En plus, ils ont réussi à avoir un label AOC.
D'accord, appellation d'origine contrôlée. Oui.
Donc, ils ont une protection. Et j'ai été parti les voir savoir ce qu'ils pensaient des importations. On s'en fout, on a une appellation. Effectivement, quand on va à leur fête de la figue fin août, là, y a un monde fou dans la ville. Et ça se vend bien. Puis ils ont de belles figues, violettes, la bourgeoisotte, qui marche très bien.
D'accord.
Mais alors, pour avoir des contacts avec eux, c'est très difficile.
Alors, on va se refaire une petite pause musicale et on revient juste après. Donc on est sur Escapade Angaric, sur Radio Escapade, avec Roger Gavinelli sur le sujet de la figue. Alors on a vu à la fois la biologie du figuier, la culture du figuier. On va finir cette émission plutôt sur une expérience que assez intéressante qui est menée dans un petit village, donc le village de Sainte-Mélanie en Ardèche. Alors Roger, tu as participé un petit peu à cet événement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Ben, participer est un peu fort, mais enfin, j'ai été invité un jour suite à un contact avec l'association Froubliers à laquelle j'appartiens, qui demandait avoir quelqu'un qui sache parler du Fillet, comme je l'ai fait au début. Là. Alors j'y suis allé et j'ai découvert Saint-Mélanie, c'est un village qui se trouve à l'ouest de Joyeuse, en pleine Ardèche, au bord d'une rivière, petite rivière très encaissée, ce qui fait une vallée extrêmement magnifique, sublime. Quand on y va, on en perd la parole. Et j'arrive là-bas, j'étais accueilli par un groupe de dames enthousiastes et qui m'ont expliqué ce qu'ils voulaient faire. Alors, ce qu'ils ont réussi déjà, c'est qu'ils ont réussi à mobiliser tout un village pour appréhender autour de dans le canton, autour de chez eux, tous les endroits où il y avait un figuier. Donc, ils ont été localisés, ces arbres, sur une carte. Et, ensuite, ils ont récolté ces fruits et ils ont fait des séances de dégustation comparaison de façon à choisir les bonnes et les moins bonnes, enfin, les distinguer. Ensuite, ils ont appris aux gens à multiplier ces arbres par des bouturages, des greffes, etc., en vue de les replanter dans un verger conservateur. Et ce verger conservateur, il va se trouver sur des lauzes, des chemins de lauzes. Saint-Mélanie, c'est un village qui est très pentu, enfin, dans une zone très pentue, où pour cultiver, dans le temps, les gens faisaient des petits sentiers de 1,50 m, 2 m, une pile de lauzes pour maintenir la terre, et en dessous, 2 mètres plus bas, il y avait encore un sentier. Alors, l'association s'appelle les Sentiers des Lauzes. C'est assez curieux. Et à chaque fois qu'ils font une manifestation, tout doit être en conformité avec le paysage. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Tout doit être beau. Ce qui est formidable, c'est que quand j'y suis allé, il y avait des poètes, il y avait des musiciens, il y avait des conteurs, il y avait des sculpteurs. Et tout ça, ça se ressent, ça se voit, ou c'est convoqué et dans le paysage. Et il y avait aussi un paysagiste qui a organisé tout ça. D'accord. Donc ils ont fait appel vraiment à des artistes. Et puis ça marche. C'est ça qui... Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire après de ces figues quand ça va être bien répertorié, remis au goût du jour et apprécié par la population, j'en sais rien. Parmi les contes, il y a des conteuses qui se sont baladées dans le village et qui ont été questionner les gens pour savoir pourquoi ils avaient un figuier, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et là, ils ont ressorti donc tout ce dialogue qui ferait très bien l'objet d'un film d'ailleurs, parce que c'est très vivant. Mais on se rend compte que les gens avaient un ou deux figuiers pour eux, mais pas pour envie de les vendre ou de les dispatcher ou de les transformer en vue de les faire quelque chose. Et alors là, il va y avoir pour eux toute une éducation à faire vis-à-vis de cette population. Alors je ne sais pas si elle a beaucoup maigri, cette population, depuis le départ des paysans, mais je pense que ces gens-là, ils ont besoin de revivre, donc d'avoir des moyens financiers, et peut-être que la figue serait le moyen. Alors, pourquoi ils ont choisi le figuier plutôt que le mûrier noir ou le châtaignier qui existe localement ? Ça, j'en sais rien, j'attends la réponse.
D'accord, donc une belle expérience où du coup tout un village s'est mobilisé autour de cet arbre, le figuier, en faisant des inventaires participatifs, en faisant ces concours de dégustation des différentes figues, des différents figuiers de la commune, et cette fête de la figue qui associe effectivement à la fois l'histoire, l'oral, la culture, le paysage aussi. Donc, C'est une belle expérience qui a été menée chez nos voisins les Ardéchois. On retient l'idée. Ça peut être des choses qui peuvent effectivement nous intéresser, surtout ces arbres qui sont bien présents en garrigue, dont on a oublié un petit peu leur utilité, hein, l'azérolier, le jujubier, le figuier, tous ces arbres qui marquent un peu le paysage et sur lesquels qui méritent justement une réappropriation, on va dire, par les habitants.
Oui, surtout qu'ils vont pousser tout seuls, des faits qu'ils n'ont besoin de... Ils poussent tout seuls, donc ils n'ont pas besoin d'intrants. Ils ont très peu de parasites, ou tout au moins, s'ils les subissent, ils résistent vaillamment. Donc, aucun intrant, pesticide, ni quoi que ce soit, c'est l'arbre d'avenir. Ce sont les arbres d'avenir, quoi.
Donc, le figuier, un arbre d'avenir. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Roger. Et à très bientôt sur Escapade en Garrigue. Thank you.